Muteki et yo koso. Bienvenue à tous pour ce dernier Muteki de la saison. On s'est un petit peu reposé une semaine après notre 14e anniversaire. Oui, ça y est, Muteki est une émission adolescente et qui va demander un scooter bientôt. Oui, non, c'était pas très marrant. Bonjour Tomo.
Bonjour, ça va?
Ça va, ouais. Ça va. Donc tu vois, on n'arrive même pas à faire des blagues drôles. On a vraiment besoin de vacances, je trouve, non?
Oui, mais moi, j'ai pas de vacances finalement.
T'as pas de vacances en plus, non, d'accord.
Non.
Ouais, je les aurai aussi.
Non, y a pas de souci. Hein.
Je les aurai un peu plus tard au mois d'août également.
On bosse pour les pour les gens qui partent en vacances là.
Ouais, pour les touristes qui écoutent Radio Canu. Exactement, tout à fait. Alors, ça reste quand même une émission normale, donc on va avoir, encore une balade dans le Japon. Enfin, une balade touristique au Japon, mais à travers les châteaux cette semaine.
Voilà, il y a presque une centaine de châteaux, encore plus. Hein, il y a 100 châteaux sélectionnés par l'État et le ministère, mais il n'y en a que 12 hein, qui existent depuis plus de 400 ans. Voilà, donc ça, plutôt à connaître.
Donc, une centaine de châteaux qui sont à voir, qui sont des points de vue, qui sont châteaux qui sont remarquables de manière architecturale. Oui. Mais
à l'intérieur, c'est soit en béton armé, sinon c'est en bois, mais... ce sont des châteaux reconstruits de A à Z après la guerre. Voilà.
Après la guerre. Et donc il y en a une douzaine seulement qui datent de l'époque Edo.
Oui, ou un peu avant. Ouais. Voilà.
Même avant d'ailleurs. Il y en a encore des plus vieux avant. D'accord. Donc pour commencer, c'était Momohiro Clover Z avec le générique de la toute nouvelle série de Sailor Moon Crystal, dont j'ai regardé. Est-ce que tu as regardé toi un petit peu ou pas?
Non.
Non. Moi j'ai regardé un peu parce
la
que
nouvelle, non.
En France sur Nico Nico Doga, on a les deux premiers épisodes que tu peux regarder gratuitement. Ah. Et y a un grand débat sur ça. Moi j'ai une sensation un peu bizarre parce que j'ai l'impression de retrouver la toute première série, mais la toute première série, je trouvais que ça mettait du temps un petit peu à se mettre en route. Et je retrouve malheureusement aussi un petit peu ce côté, ça prend du temps, on prend le temps de connaître toutes les guerrières, mais on prend le temps aussi de connaître Usagi qui est fondamentalement stupide. Il faut l'avouer. Voilà.
Ça, c'est la base.
C'est la base. Ça reste la base. Et le premier épisode est quand même relativement long parce qu'elle est très, 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 très stupide. Et le deuxième épisode, c'est sur Sailor Mercury. Je crois que Sailor Mercury, qui est Mizuno Ami, je crois que c'est la préférée des Japonais, je crois, non?
J'en entends souvent. J'en entendais un.
À la grande époque de Sailor Moon, je pense qu'on en entendait souvent parler au Japon.
En plus, oui, c'est il y a presque 20 ans, non? C'était vraiment à la mode. Hein.
C'était il y a 20 ans. On rappelle, hein, si vous ne connaissez toujours pas Sailor Moon, évidemment, série à mi-chemin entre Shonen et Shoujo, finalement. C'est une série un peu avec des héroïnes. Avec le même code couleur, tiens, d'ailleurs, que Senseiya et les Sentai.
Ah oui,
avec toujours, une force verte, une force
oui.
Une force rouge. Voilà. Ouais.
Quand j'étais au primaire, ça c'était bien à la mode entre les garçons en plus. Bizarrement.
Eh ben non, mais en fait, même en France, ça c'est regardé. Même nous on n'osait pas le dire, hein, mais il y avait des garçons qui regardaient. Normalement, c'est une série qui s'adressait aux filles, mais il y avait le côté shonen justement, le côté aventure.
Oui. Mais ça, j'en suis pas sûr, mais c'était il y a 20 ans, hein, 18 ans comme ça, ça reste quand même un truc de fille. Oui, là où j'étais au primaire, c'était plutôt un truc de garçon. Apparemment, c'était rare. Hein.
Ouais, mais c'est des filles qui se tapent dessus pour la paix et la justice. Bref, allez, voilà. on va enchaîner avec un petit peu de musique avant d'attaquer justement sur les châteaux. Et c'est parti donc pour une heure de son japonais et de balade au plein cœur de la culture japonaise, comme toutes les semaines, vous le savez très bien. C'est Muteki, c'est sur Radio Canu le samedi, c'est également le lundi sur Splash Wave Radio et sur Subarashi Radio Manga. Bonjour à et le mardi, c'est tout nouveau. Le mardi, nous sommes diffusés à 18h chaque semaine sur Radio Taco. Ça méritait d'être dit. On va enchaîner avec une de ta sélection, justement, qui est Rhythm. Est-ce que tu peux en dire un petit peu? C'est un duo de jolies filles, au final, Rhythm.
Oui, deux filles, Mais c'est mon petit frère qui m'a présenté, mais voilà, donc apparemment ils ont chanté une chanson pour un anime bien connu. Hein. Donc, c'était quoi ça? Bon.
Ah, d'accord, mais oui. je me renseignerai sur l'anime.
C'est une histoire de boulanger japonais, c'était un peu comme ça, hein, ça date un peu.
C'est pas Yakitate Japan.
Oui, tout à fait ça, ouais.
Si, c'était Yakitate Japan. Ouais. Voilà. Connu en France d'ailleurs, c'est aussi assez connu en France.
Ah.
Bah, ça parle de pain, donc forcément. Ah bah. Ça parle de boulangerie, ça a forcément du succès en France. Rhythm sur Muteki pour ouvrir cette dernière émission de la saison, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et le Facebook, le Twitter, Muteki Kanu à chaque fois. Muteki, c'est parti.
sur Radio Canu.
102.fm. C'est un conseil de Végéta.
Hayashibara Megumi, Megumi Hayashibara pour les intimes, tiré de l'excellent album Bertemu, où vous retrouvez une bonne partie de toute son œuvre et de tous ses génériques, entre autres. Et là, c'était le générique de Slayers, le film, Shining Girl, et juste avant, Rhythm. Rhythm qui a interprété, on l'a vu, donc la BO de Yakitate Japan, l'un des openings de Yakitate Japan, édité en France chez Delcourt. Strasbourg au passage, et édité au Japon, prépublié à la base par le Weekly Shonen Sunday, qui n'est pas le Shonen Jump, et qui est édité par Shokugan, où vous pouvez trouver notamment le Détective Conan, où à l'époque il y avait aussi Ranma un demi, qui était édité par le Shonen Sunday.
Ça date un peu, mais bon, ouais, ça date encore un peu.
Tu connaissais aussi, toi, Ranma un demi?
Quand j'ai commencé à savoir lire, c'était déjà fini, peut-être.
C'était déjà voilà. fini. Mais il y avait aussi une histoire de Japon traditionnel. Enfin, c'était, il y avait aussi une histoire, un lien avec la Chine, mais il y avait aussi une histoire de Japon traditionnel. Il y avait des histoires de grandes propriétés, de châteaux également.
Ah, mince, c'était quoi ça?
Mais c'était ça, justement, où en fait, c'était un sacré mélange, évidemment, entre arts martiaux traditionnels et grand n'importe quoi, avec des gens qui se transforment au contact de l'eau, pour ceux qui n'ont pas forcément connu la série, des gens qui se transforment au contact de l'eau, alors en filles pour Ranma, ça c'est la base, hein, c'est la base de la base, mais il y a aussi des gens qui se transforment, je sais pas, la plus grosse transformation, la plus what the fuck que j'ai vue, c'est la transformation en oie. Il y en a un mec qui se transforme en gros canard, en oie. Enfin voilà. Évidemment, le papa, vous l'avez.
En panda.
Il est iconique. Le papa se transforme en panda. Ça, c'est forcément, c'est l'image la plus célèbre de la série. On dévie sur Ranma un demi. Bon, allez, on est parti pour les châteaux. Et donc, tu nous expliquais que les châteaux, il y en a une douzaine seulement qui sont préservés, qui
reconstruit comme il faut, mais avec les matières de l'époque et tout, hein, voilà. Donc c'est bon, il faut d'abord savoir un château japonais, hein, voilà. Quand on dit un château au Japon, c'est pas un bourg, hein, pas.
Alors voilà, donc, c'est pas un château fort tel qu'on le dit.
C'est un fort,
pas dedans, voilà.
Non, normalement c'est vraiment un fort. Donc même par exemple, c'est pas un fort, mais même maintenant, il y a une grande tour là, mais juste à côté il y a une petite maison des seigneurs.
Donc le seigneur n'habite pas dans le donjon sert à se protéger, si
voilà, ça, en plus voilà. C'est le but. Donc les Japonais construisaient les châteaux principalement en montagne,
voilà, dans des positions faciles,
voilà, notamment entre 600 et 1700 à peu près, ah non, 1600 pardon, voilà.
Et donc c'est peut-être pour ça qu'on retrouve à chaque fois des grandes terrasses où il n'y a plus de château, mais les terrasses servaient de support au château. Alors.
Voilà, donc c'est plutôt pour se défendre. Voilà. Donc on ne pense pas trop à attaquer par là.
C'est voilà. Pour tenir une position comme ça. Voilà, non, passez pas les gars, vous passez pas, non, cherchez pas.
Voilà, donc c'est souvent pas un château principal du coup, hein. Voilà. Donc d'abord c'est les châteaux en montagne. Ça c'est donc c'était plutôt principal. Il y en avait plein. Hein. Et donc ça c'est un des types de châteaux. Et puis c'est comme ici un grand château sur la plaine. Ça c'est ce qu'on voit à la télé déjà.
Ça c'est voilà, c'est ce qu'on reconnaît assez souvent.
Ça c'est les châteaux principaux théoriquement. Et quand les châteaux en montagne sont attaqués, ça on envoie des renforts par là.
Donc c'est plus des forts militaires en quelque sorte, voilà.
Voilà, donc c'est à l'époque Sengoku, hein, vous connaissez peut-être le terme.
L'époque.
Donc c'est au 16e siècle à peu près. Hein. Donc là, c'est on a commencé à construire des quartiers en bas d'une montagne, donc d'un château, sinon autour de... d'un château plein. Hein.
Et là, on retrouve un petit peu ce qu'on connaissait en Europe, c'est-à-dire que les gens, quand les châteaux se faisaient attaquer, quand les quartiers, quand les villages se faisaient attaquer, ils se réfugiaient, j'imagine, dans le château pendant les...
Voilà, c'est ça. Donc ça a commencé parce qu'à l'époque Sengoku, déjà, la guerre existait en permanence.
Bah, c'était les clans qui se tapaient dessus, c'est ça l'époque Sengoku.
Voilà, et comme l'époque de, comme ici, à l'époque de, comme si on vit à l'époque de Louis XIV. Donc là, c'est les grands seigneurs, ils commencent à concentrer leur pouvoir. Donc ils obligent aux petits et moyens seigneurs d'habiter autour du château.
Voilà.
Voilà.
Là, la paix à ce moment-là est revenue, c'est le Bakufu qui dirige le pays, on est à l'époque de Louis XIV.
Voilà, c'est encore avant.
Encore avant.
20-30 ans avant, ça a commencé déjà.
Déjà,
c'est plus efficace quand il y a des artisans, des agriculteurs autour des châteaux, c'est efficace. Hein.
Et puis il y avait moins de guerre au bout d'un moment.
En plus, voilà, si on vit toujours dans une montagne, c'est un peu compliqué hein, de contrôler la population.
Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu m'as donné comme petite indication, c'est le shogunat justement, puisque là on est à l'époque du Bakufu. Oui. Tokugawa a décidé, il a centralisé le pays, on l'a dit, et ça a une influence sur les châteaux, puisqu'il y a un pays, un château. Donc en gros,
voilà,
un clan,
théoriquement,
un château.
C'est ça, théoriquement ça, mais il y a pas mal d'exceptions, surtout dans le nord. Parce que ça, déjà c'est loin, ouais. Donc les clans plutôt amicaux, hein, avec Tokugawa, c'était, il y en avait deux, trois parfois. Ouais.
Tes copains, donc t'as le droit à un deuxième château.
Voilà, mais dans le sud, comme voilà, comme Yamaguchi, Hiroshima et tout, c'est donc les grands pays, mais pas trop amicaux. Hein. Hiroshima ça va, mais Yamaguchi et tout, c'est plutôt un château.
Il faut savoir que le sud du pays était beaucoup plus remuant que le nord. Il y avait beaucoup plus de clans qui étaient en rébellion.
Oui, voilà, c'est déjà loin central. Et c'est souvent des seigneurs punis par Tokugawa, donc par les Tokugawa. Donc ça, voilà, ça se voit que.
D'accord, donc comme punition, ils n'avaient plus qu'un seul château et ils se démerdaient avec ça.
Voilà.
Bon, voilà.
Sinon, il y avait quand même des bourgs. Bon, je vais arrêter une fois peut-être. Là. Des bourgs, c'est comme les châteaux de Kyoto, pardon, c'est de Himeji, d'Osaka, Tokyo par exemple, de Edo qui n'existe plus, hein, voilà. Donc ça c'est, vous voyez un peu la carte de Tokyo, hein, et là où il y a maintenant des lignes et des rivières passent, avant c'était des étangs. D'accord. Donc c'est des étangs qui entouraient hein, de certains quartiers. Voilà, dedans il y avait des habitants et au centre il y avait un grand château.
Ça servait naturellement de douve, c'est-à-dire de frontière.
Donc c'est à peu près équivalent au bourg. Européen, voilà. Comme ça, apparemment ça a commencé à Kanagawa.
D'accord, voilà, à côté de Tokyo, voilà.
Odawara, c'est ça.
Et ben, ces châteaux-là, ils ont commencé à se faire démolir à l'époque oui. Meiji. Et
D'abord au XVIIe siècle, donc au début de l'époque Tokugawa, puis voilà, c'est 1868 et quelques.
Quand le pays s'est modernisé. Et puis, ben, la Seconde Guerre mondiale, voilà, il y a beaucoup de châteaux qui se sont...
Ouais, on en a beaucoup perdu, hein. Voilà, mais malheureusement.
Il y a aussi des châteaux, de toute façon, il faut savoir qu'au Japon, et tu me l'as dit et répété plusieurs fois, les châteaux sont en bois.
Oui.
Donc, ils sont un peu tout le temps reconstruits.
Oui.
Quand ils sont plus utiles, on les démonte. C'est vraiment
c'est
en fait.
Des petits châteaux, comme j'y ai dit déjà, hein, c'est des petits châteaux en montagne et tout. Parfois, c'était... facile à démolir et transportable.
Oui, voilà, des châteaux en voilà, sont ça. Transportables. Si jamais une zone de conflit se déplace, eh ben, on pouvait déplacer le château.
Voilà, donc on trouve même maintenant des endroits où il y avait des châteaux et ça se voit. Il y avait des anciens étangs abandonnés et tout, comme ça.
Et on ne trouve plus que la base du château et on ne trouve plus les structures au-dessus.
Ah non, voilà. C'est, voilà, c'est comme les châteaux se font en bois. Donc ça, déjà, l'incendie, voilà, les orages et tout, ça casse. Hein.
Donc voilà pour le petit portrait du drapeau au Japon. Donc on l'a dit, il n'y a plus qu'une douzaine de châteaux qui sont vraiment authentiques, qui n'ont pas été forcément reconstruits après la Seconde Guerre. Et est-ce qu'il y en a quelques-uns comme ça que tu peux me citer justement?
Oui, d'abord, ces 12 châteaux sont vraiment concentrés dans l'ouest.
Surtout l'ouest du pays.
Voilà.
D'accord.
Dans le nord, tout au nord, juste à côté d'Hokkaido, dans le département Aomori, il y a un château. Mais entre Tokyo et là-bas, il y a aucun château. Hein.
Donc c'est tout au nord de Honshu.
Qui existe depuis longtemps. Hein, voilà. Voilà. Donc c'est plutôt vers. Voilà. À partir de Nagano, il y en a déjà. Si je ne me trompe pas, à Nagoya, il y en a un. Et Nagoya, il y en a un. Mais ce n'est pas le château Nagoya. Hein.
Oui,
c'est dans le nord de Nagoya, voilà.
Ça. Voilà, dans la région de Nagoya.
Ça s'appelle le château Inuyama. Et enfin, c'est dans le nord de Kyoto, dans le département Shiga, il y a le château Hikone.
Donc Inuyama et Hikone.
Voilà, donc
Inuyama,
ça,
c'est celui qu'on vous a montré sur la page Facebook. D'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et je pense avec la mascotte, hein.
Alors non, ça c'est Hikone.
Ah, c'est ça, oui, voilà.
C'est ce que tu m'as transmis voilà. Ensuite. Et il y a une petite mascotte d'ailleurs pour les... simplement.
Donc même pour les touristes.
Voilà.
Donc si vous attaquez d'abord à Nagoya, ça vaut le coup de visiter hein, déjà. C'est Inuyama, c'est pas loin du centre-ville de Nagoya. Voilà.
Et c'est au nord de la ville alors.
C'est ça, oui. Je crois que 20-30 minutes en train, donc c'est pas loin. J'ai payé 3 euros peut-être.
Voilà. Oui, mais ça,
ouais, en plus, c'est pas cher. Hein.
C'est une ligne de métro, après, voilà, c'est
RER. Vous passerez également à Kyoto dans ce cas. Dans le nord de Kyoto, il y a le département Shiga. Là, il y a le château Hikone. Ça, c'est magnifique. Hein.
Oui.
Le château est bien grand en montagne et en dessous, il y a un grand quartier entouré. Donc, c'est une sorte de bourg.
Donc, il y a encore l'aspect du bourg qu'on avait avant.
Oui. Inuyama, ça date vraiment. Oh, ça date bien. Mais Hikone, c'est à peu près 1600-1603, c'est un peu comme ça. Donc
château du XVIIe siècle.
Donc à l'époque, c'est ce genre de château, c'est bien développé, donc ça vaut vraiment le coup hein, d'y aller. Et c'est pas loin de Kyoto, Nagoya, donc voilà, même pour les touristes.
On résume, Inuyama, donc c'est au nord de Nagoya, et Hikone, c'est plus au nord de Kyoto en allant dans la montagne.
Oui.
Vers quoi, Gifu, des choses comme ça, non.
Dans le nord de Nagoya. Il y a le département Gifu, là-bas aussi il y a un château, mais ça s'est reconstruit après la guerre.
Ça c'est reconstruit, d'accord, voilà. Ça.
Mais ça c'est bien sympa, hein. C'est les photos que j'y ai mises sur Facebook.
Ah oui, d'accord.
Tout en dessous d'une montagne horrible, il y a un château. Hein.
Il y a un château qui a été, qui a été reconstruit après la guerre.
Ouais, il y a des bulles, hein, voilà.
Et je connais, c'est au-dessus de Kyoto, donc en allant vers la montagne.
Voilà.
C'est ça.
Donc ça, la ville est bien plate, hein, la terre est bien plate. Mais il y a une colline, on peut dire.
Ils ont fait une petite, un petit terrassement.
Ouais, on peut dire que c'est une colline, mais j'y crois pas, c'est une montagne, franchement.
D'accord, ça, ok. Et d'ailleurs, tu me parlais de mascottes. Oui, ah. Au Japon, il y a des mascottes pour tout, parce que nous, on a eu, Funashi à Japan Expo.
Oui.
Pour, ça n'a rien à voir, hein, c'est pour la ville de Funabashi, qui est dans le département de Chiba. Mais les châteaux aussi, ils ont Hikonien, par exemple.
Oui, c'est ça, je crois que c'est la mascotte du château la plus connue au Japon. Hein.
D'accord, c'est la plus connue.
Je crois, ouais.
En gros, pour vous décrire, c'est un petit chat avec un casque de samouraï, c'est ça?
Voilà, c'est. Il y a une légende avec un chat et le deuxième chef du clan, du Shiga. Voilà, donc c'est.
En plus de ça, oui, en plus, ça, ouais. ça correspond aussi au nom du département.
Voilà, donc Hiko, c'est Hikone, Nien, c'est le chat.
c'est le chat de Hiko, ouais, simplement, voilà.
Donc il y a des démonstrations dans le domaine du château, hein, c'était sympa.
Tu me parlais aussi, pour en terminer avec ce petit portrait également, je vais retrouver Yamajiro et Sugamae. Est-ce que c'est aussi à côté de...
Ça, Yamajiro, c'est, quand on dit ça, c'est les châteaux traditionnels japonais donc, qui se trouvent en montagne. Yama, c'est la montagne, Jiro ou Shiro, c'est le château. Donc ça, en montagne. Donc le château de Hikone aussi, ça peut être plutôt un Yamajiro.
Donc c'est classé comme un Yamajiro, donc un fort de montagne, château de montagne.
J'ai pas mis, mais Hirajiro, ça c'est comme les châteaux d'Osaka, de Kyoto et tout, donc qui se trouvent pas en montagne.
C'est plus les châteaux...
un peu comme ici, hein, c'est, voilà.
Voilà, on sera, oui. c'est plus les châteaux qui sont habités par les seigneurs. C'est des
par les seigneurs, mais pas forcément avec les habitants. Et enfin, c'est Sogamae, ça c'est un bourg. Voilà.
Donc c'est le nom du bourg qu'il y a autour.
Voilà, c'est comme les châteaux d'Osaka et de Tokyo, on en discute, mais par exemple le château Himeji et Hikone, ça c'est Sogamae.
D'accord, voilà.
Hikone, il y a un château en montagne, mais en dessous, il y a des habitants. Avec un quartier qui entoure, entouré par les étangs, par exemple.
Un bourg fortifié, on dirait presque en France d'une certaine façon.
Ah.
Alors on a aussi, on va pas forcément tous les dire. On en a quelques-uns qui sont plus à l'ouest. Je vois certains qui sont du côté de Shikoku, du côté de.
Oui, c'est plutôt. Il y en a trois à Shikoku, Okayama, oui. Voilà. Donc, par exemple, les châteaux les plus importants de l'époque. Comme le château de Tokyo, d'Osaka et tout ça, c'était les villes bien industrialisées, y compris Hiroshima et tout. Donc ça a bombardé pendant la guerre.
Oui, ben ça en plus.
C'est pour ça, ouais, donc voilà.
c'est les villes qui ont le plus dégusté. Mais il y en a aussi. Donc, bah, alors, faut déjà savoir où se trouve Shikoku. Déjà, de Shikoku, c'est la petite île qui est au sud de Honshu. Et alors, c'est même les Japonais savent des fois pas où c'est. Et du coup, en fait, c'est aussi là où tu peux trouver pas mal de châteaux. J'ai l'impression. Tu m'as donné une petite carte et vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là-bas.
Oui, dans sur l'île Shikoku, je crois qu'il y a un château pour presque sur dans chaque département, non?
Dans chacun des départements. Oui,
presque,
je crois.
Ouais.
Oui.
Presque, ouais.
Presque, ouais. Voilà. Quatre départements à Shikoku et il y a quatre châteaux.
Voilà.
Donc quatre châteaux traditionnels évidemment. Hein.
Donc ouais, voilà. Ça... Là-bas, c'est quand même intéressant. C'est les châteaux traditionnels qui se trouvent au bord de la mer.
Voilà. En plus,
donc c'est un peu spécial. Ouais.
Exactement. Voilà. Donc et on peut vous reconseiller encore une fois Inuyama, qui est près de Nagoya, et Hikone, qui est près de Kyoto.
Kyoto, voilà.
Qui sont les deux, donc, deux des plus célèbres.
Donc, c'est facile à y accéder hein, déjà, mais pour les touristes qui passent là-bas, à Nagoya, à Kyoto, bien évidemment.
Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon des châteaux. Dernier petit tour d'horizon donc de la saison et puis on se retrouvera évidemment on se retrouvera avec de nouvelles balades évidemment en septembre prochain. À partir de septembre, on verra
hein.
Des balades évidemment à Tokyo, autour de Tokyo où on verra bien. Oui. On a déjà fait Chiba, peut-être qu'on fera je sais pas
Kanagawa, Kanagawa peut-être
par
Kanagawa
exemple, oui. avec
Yokohama. Ah voilà, là-bas j'ai déjà parlé de ça, il y avait un château Sogamae hein, là-bas.
Il y a un château justement, bourg fortifié.
Voilà, c'est Odawara, hein, ça n'existe plus, mais bon. C'est sympa la ville. Hein.
Ça marche. Eh bien, on en parlera de ça à la rentrée.
En septembre, oui.
En septembre, voilà. On va enchaîner sur, sur du Franco-Jap, tiens, puisqu'il est déjà quasiment moins 20. On a une petite scène toujours Franco-Jap, vous savez que sur Muteki, on parle aussi de tous ces groupes qui sont basés en France et qui sont inspirés par le Japon. Certains. La plupart mettent du japonais dans leurs chansons, des fois un petit peu moins. Et on avait notamment reçu, et notamment la semaine dernière, Tai Shindehai, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là, batteur et leader et compositeur de Starry Sky. Et Starry Sky, Tai nous avait expliqué que toutes les semaines, il y avait une nouvelle chanson qui sortait sur Internet avec un petit clip, et notamment le clip qui est sorti cette semaine. C'est celui d'une chanson qui s'appelle Capsule, et il me semble, je ne suis pas sûr, mais je crois que l'EP est quasi complet, ou complet tout simplement. Et ce qu'il y a en plus de ça, si vous cliquez sur le lien qu'on vous donnera évidemment sur Facebook, eh bien vous pouvez télécharger cette EP. Et donc on vous le rappelle, c'est une chanson par semaine qui est publiée sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et ce groupe donc, c'est Starry Sky, on l'avait déjà passé notamment en début d'année, avec notamment un album qui était sorti en début d'année. On va enchaîner donc sur tout autre chose justement. La chanson elle s'appelle Capsule, nouvelle chanteuse, nouvelle collaboration au pluriel, et c'est la chanson donc qui est parue cette semaine. Starry Sky, Capsule, c'est tout de suite dans Muteki.
Yeah. La stat est simple. Sparadrap, tu vas allumer ta radio. Gaïa, tu vas mettre la bonne fréquence, la 102.2 FM. Tu m'as bien écouté. Et surtout, vous écoutez bien la strat sur Mouteki.
Moshi moshi watashi wa ima koko ni imasu. Ima kara ikana soichi ga shitai no atashi do yo. Yeah.
Et oui, c'était du japonais chanté par des Français juste à l'instant. T'as réussi à comprendre quelque chose ou pas?
Oui,
c'était quand même
oui,
suffisamment.
Oui, ça. Il n'y a pas de souci, hein.
Il n'y avait pas trop de soucis. Bon, ça va. La chanson, c'était Choose Me. Le groupe en question, c'est Lolito. Oui, bah, c'est comme Lolita, mais au masculin, en plus. Non, mais j'ai vraiment demandé, en plus. J'ai demandé si c'était vraiment ça, et puis je crois que c'est vraiment ça. Donc, le groupe est parisien. Il s'appelle Lolito. La chanson, c'est Choose Me. Le single, la face A est en français et la face B est en japonais. Oui, je parle de face B parce qu'en plus de la sortie en CD, ils vont en sortir une version 45 tours, rends-toi compte, de ce single qui est très années 80. Donc on l'a dit, scène franco-jap, petit mix franco-jap comme ça avec Starry Sky d'un côté et Lolito de l'autre. Et je passe Lolito aujourd'hui précisément. Pourquoi ? Parce qu'il y a une release party. Qu'est-ce que c'est qu'une release party ? C'est la soirée spéciale de lancement du single Choose Me, single donc on vient de passer juste à l'instant en japonais. Une release party donc avec un thème qui est le karaoké, logique, puisque la chanson est en français et en japonais. Ça se passe à Paris, c'est ce soir, 19h, ce soir samedi 26, 19h au Walrus, rue de Dunkerque, c'est pas très loin de l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de la capitale. On fait un gros coucou à Bruno et évidemment au groupe Lolito et à Elno Prod qui nous a fait l'amitié de nous transmettre ce single. Voilà Lolito juste à l'instant. Alors, je vais juste te relancer un petit peu sur le,
oui.
Avant de lancer la chanson, je vais te relancer un petit peu sur ces histoires de château. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter à partir de la rentrée. Je pense qu'on peut parler de ces gens-là, genre Oda Nobunaga,
oui.
Ou Hideyoshi Toyotomi, ces grands conquérants du Japon, si j'ose dire. Je pense qu'il y a plein de petites anecdotes à raconter. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, oui, moi, ça me va bien, hein. Bah déjà c'est ça peut attirer les gens même pour les prochaines vacances déjà.
Bah pour expliquer parce que c'est souvent des gens qu'on trouve, mais notamment les fans de jeux vidéo connaissent Oda Nobunaga parce qu'il y a une grande série de jeux vidéo qui s'appelle Nobunaga no Yabo.
Ah voilà comme moi là ça.
Voilà l'ambition de Nobunaga qui est une série de jeux de stratégie et puis tous les fans de Sengoku Basara ou Sengoku Musou.
Oui.
C'est dans cette époque là où tous les clans se tapaient entre eux également. Donc je pense qu'il y a pas mal de.
Oui tout à fait comme le château de Hikone. Attention, juste à côté, il y a Sekigahara là.
Oui, alors
voilà déjà c'est
la fameuse bataille.
Ouais, on peut faire des petites et grandes balades là-bas.
On peut s'y promener évidemment. Et Sekigahara, il y a quelque chose en fait pour les touristes. Il y a un mémorial,
c'est
pas un mémorial, mais il y a
mémorial, mais on peut faire de la randonnée déjà.
D'accord.
Donc ça, franchement, ça, même pour les Japonais, c'est quand on a vraiment rien à faire ou quand on a vraiment du temps, ça a passé.
En tout cas, j'adore comment tu dis ça. Si t'as du temps à perdre, tu peux aller à Sekigahara.
Oui, parce que déjà, c'est le statut juridique de Sekigahara, c'est même pas un village. Attention. Hein.
D'accord.
Donc c'est, mais comme Sekigahara se trouve vraiment au centre du Japon. Hein, bah donc c'est pour ça on a fait déjà deux plus grandes guerres hein, au Japon hein, là-bas.
C'est souvent là où en plus pas mal de clans se rencontrent, je veux dire c'est
voilà déjà c'est pas loin de Kyoto, il y a Nagoya, l'une des principales villes.
Voilà, c'est entre Kyoto et Nagoya.
Donc mais ça il faut y passer hein, pour aller à Kyoto. Donc,
c'est pas un château, mais c'est vrai que c'est un site historique qui a son importance dans le Japon. C'est vraiment une grosse bataille qui a eu lieu là-bas.
Voilà, quoi. C'est
grosse bataille. Alors c'était l'époque de qui? C'était Nobunaga ou c'était Hideyoshi?
Sekigahara?
Oui.
C'est de Ieyasu.
Donc c'est encore après.
C'est facile à retenir, c'est 1600. En 1600,
c'est
la
facile.
Guerre.
Voilà.
Voilà. Donc c'est après la mort de Hideyoshi, 3 ans plus tard, presque, c'est bon, c'est la guerre.
De toute façon, c'est la guerre partout, tout le temps, là-bas, à cette époque-là, au Japon. Allez, on va enchaîner sur, on parle de guerre, mais on va passer au rock'n'roll. Tiens, avec des grosses voix et tout. Ouais, ce sera bise. des grosses voix, mais pas trop quand même, avec des très très bons chanteurs et guitaristes, notamment Tak Matsumoto, évidemment. Le guitariste de bise.
Ça va.
Voilà. Tiré de l'album Magic. Et la chanson, c'est la chanson tout simplement éponyme qui s'appelle Magic. C'est Muteki et c'est encore jusqu'à 10h et c'est une heure de son japonais, évidemment.
monashi.
Magic Bees, juste à l'instant. Et hors antenne, on était vraiment en train de parler, on était à fond sur la bataille de Sekigahara, qui, je le rappelle, est la bataille qui a permis donc à Tokugawa Ieyasu devenir non seulement shogun, mais d'exercer vraiment un pouvoir absolu militaire sur le Japon. Et alors, on était parti sur des... Voilà, c'est la dernière de l'année, on va un tout petit peu déborder. Et tu me comparais un peu Sekigahara, cette grande bataille,
oui,
à une partie de baseball finalement.
Oui, ça se fait qu'en ligne, hein, mais c'est les fans de baseball qui ont fait ça. Ça m'a fait bien rire. Hein.
Et qui ont comparé le clan, leur premier batteur.
Oui, c'est ça, donc le premier batteur qui faisait rien.
D'accord, il a
par
laissé,
exemple,
voilà.
Et le deuxième, il s'est battu vraiment à fond. Le troisième, pareil, mais le quatrième, il a vraiment rien fait jusqu'à la fin. Et, et le lanceur ou le catcheur qui trahit, comme ça.
Ah oui, et oui, parce qu'il y a une trahison. Donc c'est le catcheur, c'est l'attrapeur qui est derrière le batteur, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le baseball, qui a trahi. Donc
c'est l'un des clans qui possédait le plus de soldats. Et il bougeait pas. Et à la fin, il a trahi.
D'accord, et à la fin, il a trahi. Le lanceur, si je comprends bien, c'est Tokugawa, c'est ça?
Non, c'est déjà, il y a deux équipes.
Voilà, c'est vrai.
C'est ça. Au camp de Tokugawa, ça va. Ils se sont tous bien battus.
Ah d'accord, bon, ouais. Ils étaient plutôt disciplinés.
C'est pour ça, donc ça, le camp ouest de Ishida Mitsunari et tout, là. Comment ils vont gagner déjà?
Ils se sont demandé comment ils allaient gagner. Il y avait Mitsunari, il y avait Molly.
Un grand chef, donc c'est le chef d'équipe. Il était à Osaka. Il était même pas au camp de bataille.
Il s'est même pas déplacé, lui.
Non, il était comme un enfant. Il était à la maison.
Hein. Il était tranquille, quoi.
Ouais, tranquille. Et donc son cousin, c'était comme ça. Son cousin, il avait déjà trahi il y a longtemps. Donc
ah oui.
Derrière lui, il y avait trois ou quatre clans coincés. À cause de lui.
Donc lui, il a trahi en coinçant des clans qui n'ont pas pu aller à la bataille alors.
Ouais, voilà.
Ah ouais, donc...
Donc il y a pas mal de clans de l'Ouest qui ont perdu sans se battre.
Donc ramener au baseball, c'est un petit peu comme si tu n'avais pas pu aller au match, quoi.
Ah bah finalement, voilà. Au lieu de 9 hommes... ils étaient que 2, 3 ou 4. Hein.
Oui, parce voilà. Que voilà, on rappelle, le baseball se joue à 9. Hein, c'est pour toute la symbolique, évidemment. C'est un peu ça qui a amené justement la comparaison avec le baseball.
Voilà, donc déjà, Sekigahara est très mal enseigné au Japon. Bah, on dit que c'est une guerre entre Tokugawa et Toyotomi. Mais non, c'est faux. Il y avait vraiment que des hommes de Toyotomi, y compris Ieyasu.
On va juste rappeler, Toyotomi était mort juste un petit peu avant, genre 3-4 ans avant, c'était ça.
C'est ça, oui.
Un de ceux qui ont essayé de conquérir le Japon pour eux, et c'est Tokugawa qui a gagné.
Tokugawa et Mitsunari, qui se méfiait hein, de Ieyasu. Et Ieyasu, il voulait. Mais en gros, les deux se sont battus pour le fils de. Hideyoshi.
De Toyotomi Hideyoshi.
D'après eux, hein.
Voilà. Donc c'est tout ça et t'as ramené évidemment dans le contexte du XVIIe siècle japonais avec tous les clans qui se battent entre eux et des conquérants qui essayent de ramener, de forcer la paix à l'intérieur du Japon. Et la suite de l'histoire, c'est que donc Tokugawa Ieyasu va gagner, va fermer le pays, va instaurer le Bakufu et il en sera ainsi jusqu'en 1868.
Voilà, c'est la fermeture, ça commence dans les années 1640, mais voilà, jusqu'en 1640 presque, c'était quand même, ça sentait la guerre. Hein,
ça sentait encore bien la guerre,
encore,
d'accord.
Ouais, voilà.
Il y avait des gens qui voulaient leur revanche et tout, tu sentais bien.
Oui.
Voilà. Allez. Bon, allez, on va arrêter de parler de la guerre et on va se quitter sur une très jolie chanson, tiens, justement, qui est
pas chantée
par une. Oui, c'est mieux.
Ça, c'est bien, voilà. Ça.
La BO de ce qui sera peut-être le dernier film de Ghibli. Je ne sais pas si tu as su, dans ces dernières semaines, on a appris que Ghibli avait peut-être envie d'arrêter de faire des, des films.
Oui, oui.
Et juste de faire la promotion des films qui existent déjà. On verra, il n'y a pas de décision pour l'instant, mais c'est vrai que ça a suscité beaucoup, beaucoup d'émotions dans la communauté des fans, c'est logique. J'essaie de traduire en fait, puisqu'il y a plusieurs traductions qui sont proposées, le film qui sortira s'appellera Omoide no Marnie. C'est When Marnie Was Here ou Souvenir de Marnie, je crois que c'est ça qui est proposé.
C'est plutôt
le
second, hein, moi perso. Voilà. Hein.
Ou quand Marnie était là ou Souvenir de Marnie. Pour l'instant, c'est on est encore un peu dans le flou question traduction. Et c'est Priscilla Ann qui chante ça, donc qui n'est pas du tout japonaise, mais qui signe la BO, qui interprète cette BO de Omoide no Marnie. On se quitte avec cette très 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 jolie chanson et on vous souhaite évidemment de très bonnes vacances.
Bonnes
vacances à toi aussi.
Merci. Et à toi aussi. Hein.
Et merci. On va se retrouver évidemment en septembre. On va essayer de se reposer un petit peu, de relancer Mouteki, de proposer des nouvelles choses notamment.
Ah oui, il faut qu'on en discute.
Et on va en discuter.
On
aura un mois pour discuter de tout ça. Ce sera parfait.
On va pas travailler peut-être.
Ah ouais, ce serait bien. Voilà, on va faire une émission en fait présentée par d'autres en fait. On va appuyer sur des télécommandes et ce sera des robots qui présenteront. Voilà. Allez, c'est parti. Fine on the Outside, c'est le nom de la chanson. Et le film à voir, évidemment, le prochain film et peut-être le dernier film de Ghibli, ce sera Omoide no Marnie. Portez-vous bien, vive le son japonais, matane!
Matane! By myself,
Would you remember?